Aujourd'hui, nous revenons sur les résultats des Césars qui ont lieu vendredi dernier. On n'oubliera pas de mentionner la Berlinale qui s'est terminée également ce week-end. Et puis, on parlera du marché français des vacances scolaires. Opening week-end numéro 64, c'est parti.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a un fichier complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez et merci de nous retrouver pour cet épisode numéro 64 d'Opening Weekend. J'ai le plaisir ce soir d'être avec mes très chers collaborateurs, mes très chers chroniqueurs, à commencer par Julien Bernard. Bonjour Julien.
Bonjour tout le monde, bonjour Tom.
Jérémy Trekesser, bonjour Jérémy.
Bonjour Tom, bonjour à toutes et à tous.
Et Arthur Pavlowski nous éclaira de ses sciences ce soir. Bonjour Arthur.
Bonjour à toutes et à tous.
Il y a une petite lumière qui clignote au-dessus de sa tête ce soir.
Déjà, il est prêt, il est au taquet, il s'est bien reposé ce week-end, ça va donner du grand Arthur aujourd'hui. On enchaîne sans transition directement pour parler de l'actualité, la grosse actualité qui nous a animé ce week-end, à savoir les résultats des Césars. C'était la 49e cérémonie qui s'est tenue à l'Olympia vendredi soir, 4 heures de cérémonie, 26 récompenses dont 2 Césars d'honneur. Césars d'honneur décernés, Jérémy A.
Agnès Jaoui et Christopher Nolan himself.
Exactement, qui était venu en présence de sa femme et productrice Emma Thomas pour recevoir son César d'honneur. Messieurs, je me tourne vers vous pour parler un petit peu de cette cérémonie. Et vous allez me donner un peu chacun à votre tour vos ressentis avec un ou plusieurs coups de cœur et potentiellement un coup de gueule. Jérémy, je te laisse commencer.
C'est pas évident hein, de se jeter comme ça. Je vais commencer par le coup de gueule, mais c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plutôt une petite déception parce que c'est un film documentaire que j'aimais beaucoup. Le premier film d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Fanny Mollins. Atlantic Bar, c'était son documentaire. Il ne l'a pas gagné. C'est dommage parce que je trouve que c'est un très beau film. C'était Le Petit Outsider. Bon, après, ouais. C'est un film passé par la case Cannes, donc forcément, qui a peut-être une plus grosse exposition qui a été vue par plus de membres de la Cannes. À savoir les filles d'Olpha.
Et puis la compétition était rude en plus dans les documentaires.
Exactement,
avec ouais. Little Girl Blue qui était aussi un des favoris quasiment outsider.
Tout
aussi.
À fait. Très très beau film aussi de Mona Hachache avec une Marion Cotillard extraordinaire, faut le dire, faut le rappeler. Coup de cœur, bah, bien évidemment, c'était très très attendu. Moi je trouve que c'est la prise de parole de Judith Godrèche parce que depuis combien de temps on entend beaucoup de choses pas forcément très glorieuses sur le monde du cinéma et enfin l'Académie, le monde du cinéma a laissé la parole à une personne victime et ce n'est pas que la presse maintenant qui se fait écho de ces témoignages, donc c'était un moment très fort, très intense et espérons que ça marque vraiment un renouveau dans le cinéma. En tout cas, il faut quand même noter une chose, c'est que au niveau des prix décernés, beaucoup beaucoup de prix étaient remis à des réalisatrices et ça fait plaisir parce que les femmes font des films et les femmes font de très très beaux films.
Une prise de parole de Judith Godrèche qui a été rajoutée assez tardivement dans la semaine, hein. Ça a été je crois décidé mercredi qu'elle prendrait la parole et ça a été un discours de près de 20 minutes il me semble entre 15 et 20 minutes, donc vraiment voilà, un discours empreint d'émotion avec une salle qui s'est levée d'un seul homme ou d'une seule femme la fin pour applaudir.
Bah, d'autant plus que d'autres personnes qui sont montées sur scène lui ont rendu hommage également, donc c'est par ces prises de conscience collective et le fait que la parole va se libérer de plus en plus qu'on arrivera peut-être à changer un petit peu ce milieu parfois un peu trop archaïque.
On ne l'a pas dit, palmarès dominé notamment par Anatomie d'une chute qui remporte notamment meilleur film et meilleure réalisation.
Meilleur scénario.
Six Césars pour Anatomie.
Six Césars, ouais. Pas loin derrière, Le règne animal en remporte 5.
5.
Dont la meilleure photographie et la meilleure musique, Jérémy.
Et aussi meilleur costume. C'est quand même l'une des premières fois, je crois, que le César du meilleur costume ne revenait pas à un film d'époque.
Ouais, exactement, exactement. Et d'ailleurs, je ne peux pas ne pas mentionner la venue de la chef costumière qui a reçu le prix, qui était hyper émue sur scène, qui a eu du mal à parler. Et c'était assez drôle à regarder. Et on était totalement en empathie avec elle.
Très beau moment.
On avait quoi, meilleur film étranger? On avait Simple comme Sylvain qui a été la surprise aussi, puisqu'on attendait forcément le Christopher Nolan Oppenheimer qui rafle tous les prix. On verra aux Oscars, mais il a quand même de grandes chances de l'emporter. Meilleur documentaire, Les Filles d'Olpha.
On l'a dit, ouais, tout à fait.
Encore deux femmes réalisatrices.
Ouais, bien sûr.
On a quoi d'autre? On a la meilleure adaptation, L'amour et les forêts.
Oui, Valérie Donzelli et la scénariste et réalisatrice Audrey Diwan.
Et important, meilleur premier film, Chien de la casse.
Et meilleure révélation, là, révélation masculine pour Chien de la casse également, Raphaël Quenard.
Moi, c'est ma petite déception de la soirée. J'attendais quand même un Paul Kircher en meilleure révélation.
Donc ça, c'est ton coup de gueule, Arthur.
Petite déception.
Moi, je pense que c'était compliqué que Raphaël Quenard n'ait pas le prix cette année, vu sa présence sur les écrans, vu ce qu'il apporte au cinéma. Oui.
Je rajoute coup de cœur, évidemment.
Au show, Raphaël Quenard.
Non, j'avais envie d'être un peu plus surprenant. Non, à Arié Vortalte, qui n'a clairement pas volé son prix pour Le procès Goldman de Cédric Kahn, un film que j'ai personnellement adoré, et je l'ai trouvé, lui, d'une intensité rare. Et c'est un acteur qu'on ne connaît pas assez, je pense, qu'on a souvent vu dans des seconds rôles ces 3-4 dernières années. Et il était encore dans le dernier film avec Virginie Efira, Rien à perdre. C'est un acteur, c'est un très très grand comédien, et je trouve que voilà, c'est mettre la lumière sur ce comédien. J'espère que le plus grand nombre vont enfin pouvoir le découvrir et qu'on va le voir dans d'autres premiers rôles rapidement.
Mais il a même pas encore 40 ans, donc il a encore toute sa carrière devant lui.
Alors que Swan Arlo, il a gagné son troisième César, je crois, il a 42 ans, il a gagné son deuxième César du meilleur second rôle, et il avait déjà c'est-à-dire du meilleur premier rôle pour Petit Paysan. Donc là, lui, c'est bon. Et en plus, il n'est pas venu. Voilà, il fuit la célébrité. On l'adore.
Et bravo à Sandra Hüller qui est, pour rappel, encore à l'affiche dans la zone d'intérêt.
Et Anatomie d'une chute qui continue. Hein, on en parlera tout à l'heure.
Et meilleure actrice, surtout. César de la meilleure actrice.
Pour une Allemande, voilà, depuis Romy Schneider. Est-ce que déjà Romy Schneider l'a eu, en plus?
Son discours était empreint de vérité. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Sandra Hüller,
ouais, exactement.
Mais tout le monde.
Mais c'est vrai que c'était une super belle... C'était cette 49e cérémonie. Elle était à l'image de notre époque, ça veut dire des temps douloureux mais nécessaires, des temps joyeux. Voilà, c'est vrai que moi, c'est une cérémonie qui m'a plu, qui m'a parlé en tout cas. Alors peut-être que j'avais vu plus de films que d'habitude, parce que c'est vrai que c'est plus...
Le cru était quand même d'un sacré niveau. Ouais. Parce que le film de Catherine Rea n'a pas eu de prix, mais pourtant, voilà... Léa Drucker, l'autre frère Kircher, donc c'est Samuel Kircher. Samuel Kircher, Catherine Briac était dans la salle, donc encore une femme réalisatrice. Là, cette année, je pense que le fond et la forme coexistaient de la plus belle des manières.
Et puis moi, je rajouterais aussi Révélation féminine avec Ella Rumpf, le théorème de Marguerite.
Ça, c'était une surprise.
C'était une surprise, mais quand tu vois le film, elle est sur tous les plans, elle tient le film à elle toute seule, elle est assez incroyable, et on va la revoir aussi. Alors c'est vrai que parce qu'il y avait du monde dans cette catégorie, mais on va la revoir, c'est sûr aussi.
Bah, surtout le théorème de Marguerite, c'était Pierre Mille qui l'avait distribué.
Il me semble,
c'était un beau succès, un film qui arrivait comme ça assez doucement, et je crois qu'il accumulait presque 200 000 entrées, si je dis pas de bêtises.
On va regarder, j'ai plus les chiffres.
Le fact-checking est en cours.
Ouais, c'est ça. Et on va en profiter aussi pour parler du meilleur film d'animation, parce qu'il y avait aussi trois beaux films, et c'est Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Je ne sais pas s'il se prononce bien.
Lodenbach, c'est ça.
Mais en tout cas, qu'il a gagné. Film d'animation incroyable, si vous ne l'avez pas vu. Avec les enfants, sans les enfants, à regarder. Et petite déception, on peut rajouter, mais on avait envie de leur donner un prix à tous les deux pour le Market Express.
Ouais, c'est sûr qu'on avait reçu à ce micro.
Tout à fait. Arthur, toi, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant de cette cérémonie?
Le partage en fait presque égal sur les récompenses du règne animal et d'Anatomie d'une chute qui ont été deux très grands films et puis deux succès surtout en salle.
C'est vrai qu'il n'y a pas eu de trust cette année de prix.
Oui, non. Mais alors après on pourrait, si on veut faire un petit peu langue de vipère, dire que t'as un peu d'un côté des prix plus techniques et les prix symboliques qui sont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice.
Bien sûr, mais
et tous les deux mérités. Moi,
mais sur le meilleur film ou meilleur réalisateur, réalisatrice, ça se jouait quand même finalement à pas grand chose. Les deux ont eu de très très beaux succès et critiques
exactement.
Et publics. Je crois en plus que Thomas Caillé et Justine Triet sont à peu près de la même génération.
Parce que Justine, elle doit avoir 45 ans et Thomas Caillé doit pas être loin.
Donc des quarantenaires. Non, c'est pas une nouvelle génération parce qu'ils sont quand même là depuis quelques années. Mais
surtout,
c'est deux réalisateurs qui, chacun dans leur style, on l'a tout de suite vu chez Justine Triet, chez Thomas Caillé, ont voulu faire un cinéma à la fois art et essai, donc avec vraiment une réflexion à la fois sur le sujet du scénario, sur le traitement, et après, évidemment, sur ce que c'est que le matériau même du film, le montage, la musique, etc. Et en même temps, un cinéma avec une vocation populaire. Et ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu deux films dans la même année français qui avaient rencontré le public cible et le public un peu plus large. Donc à tous les détracteurs du cinéma français, non, il n'est pas et il ne sera jamais mort.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déplu, Arthur, pendant cette cérémonie ?
Je mettrai un petit veto sur la présentation de Danny Boone et Diane Kruger.
Un petit bémol,
oui. Qui est tombé un peu à plat.
C'est vrai qu'elle arrivait, elle s'arrivait un peu tard. Je crois qu'il était autour de
23h40.
Ouais, 23h40. Et je pense que c'était un moment où il fallait un peu enchaîner, parce que tout le monde attendait fébrilement les derniers prix. Et c'est vrai que oui, je pense que la fatigue de tous s'est fait ressortir. Et forcément, les rires étaient peut-être un peu moins présents. À noter tout de même que Raphaël Quenard était en lice pour un doublé qui n'avait pas eu lieu depuis Tahar Rahim pour Le Prophète.
Qu'il avait eu. Il avait réussi le doublé.
Il avait eu les deux. Il avait fait meilleure, révélation et meilleur acteur.
Et à noter que c'était pas pour le même film là du coup depuis le procès.
J'avoue que Quenard, hier.
au fil de la cérémonie, on s'est dit qu'il y avait peut-être moyen que Raphaël Quenard y remporte les deux et puis finalement non et c'est peut-être très bien comme ça parce que ça permet de mettre en valeur.
Moi j'aurais bien donné un petit Romain Duris, tu vois.
Pourquoi pour le règne animal?
Ouais et puis parce que c'est vrai, alors c'est pas pour l'ensemble de sa carrière mais ça fait 20 ans qu'on le suit, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il nous accompagne.
Oui, c'est vrai. Il a changé Thomas hein, du Péril Jeune.
C'est ça, exactement. Et ça aurait fait plaisir. Après, voilà, c'était un petit plaisir personnel.
Ça montre en tout cas que voilà, on est tous les quatre. On aurait envie de donner les prix à tout le monde.
Ouais.
Beau consensus cette année. Les films, dans la majorité, ont plu.
Et deux beaux César d'honneur aussi. Hein.
C'est ce que j'allais dire. Faut pas oublier Agnès Jaoui qui devient l'artiste féminine la plus primée de l'histoire de la cérémonie.
C'est pas vrai.
Si, elle avait eu 6 Césars, plus le César d'honneur, ça fait 7. Elle en avait eu un comme actrice, un comme réalisatrice, 4 comme scénariste. Donc plus le César d'honneur,
Elle a dépassé Isabelle Adjani,
elle était à...
Je crois qu'elle a 5 Césars de meilleure actrice.
Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est la plus primée. Incroyable. Et puis, elle a joué du... Ukulélé.
Ouais, exactement. et oui, à signaler aussi ce discours de Jamel Debbouze, très touchant, en hommage aussi à Jean-Pierre Bacri, qui a été mentionné évidemment à de nombreuses reprises, parce que, comme l'a dit très justement Agnès Jaoui, lorsque son travail est récompensé, c'est aussi celui de son comparse, de son binôme, Jean-Pierre Bacri, qui l'est. Donc voilà, c'était un moment aussi très émouvant. On n'a pas signalé que les Trois Mousquetaires également ont été primé à travers, et ça c'est je trouve assez logique, à travers les meilleurs décors. C'était bien que les Trois Mousquetaires ne repartent pas Fanny, parce que c'est quand même une production française qui a marqué l'année avec deux films et 6 millions d'entrées au box-office. Et on n'a pas à signaler également le César pour Adèle Exarchopoulos,
évidemment.
Voilà, oui. qui représente le seul prix pour Je verrai toujours vos visages.
Mais voilà, c'est pareil, on avait oublié Je verrai toujours vos visages, film réalisé par une femme, succès populaire, succès critique. Et c'est dommage qu'il soit passé à la trappe, mais voilà, une fois de plus, c'est comme quand on a un grand cru cannois, à un moment on se dit, mais c'est quand on regarde rétrospectivement, on se dit, tu te rends compte, ce film-là que j'ai adoré, qui a eu un super succès, il n'a même pas eu le moindre prix. Mais, Ça montre que voilà, le niveau médian maintenant, il est très très élevé.
Ouais, ouais. C'est très très dur.
Qui restera, c'est le Christopher Nolan qui tient le CV de Jean-Pascal Zadi aussi.
Ouais. Ah oui.
Ça, c'était assez drôle en effet. Quelque chose à rajouter avant de passer à la suite ?
Non, juste on va essayer de développer quelques infos en plus. Valérie Lemercier est la seule à avoir réussi à être lauréate, animatrice et présidente des Césars, qui l'ont récompensée à 3 reprises. Elle avait eu second rôle, elle avait eu meilleure actrice. La parité parmi les votants, vous avez une idée ou pas des pourcentages ?
Parmi les votants, waouh, je pense que c'est assez inégal, je dirais...
Mais il y a des progrès.
70-30, 70%
non,
d'hommes.
Non, non, quand même. Quand même, ça a été, tu sais que ça avait été repris. Donc ouais. Il y a 4694 professionnels membres de l'Académie qui votent. Alors, on ne sait pas comment ils votent, s'ils ont vu tous les films ou non. Et en tout cas, il y a 43,6% de femmes, mais il n'y en avait que 35% en 2020.
Ah oui, waouh, ça a vraiment changé.
En alors, en quelle année sont nés les Césars ? Petit quiz.
49e année. Donc... Ah non, il y a eu...
Il faut aller vite. Ah, allez, en 76, ouais. Par Georges Craven. Ouais. Mais avant, il y en avait eu d'autres. Comment ça s'appelait ? Il y avait les Victoires du cinéma français.
Bah, comme les Victoires de la musique. Ou les...
Créées en 1946. Et de 55 à 75, c'était les Étoiles de cristal.
Waouh.
Et alors, est-ce que la cérémonie a déjà eu lieu dans un cinéma ?
Ah. Moi, je dirais non.
Au Grand Rex, non.
Grand Rex en 83.
C'était la seule année au Grand Rex.
C'est la seule année au Grand Rex.
Le Grand Rex cité 3 fois par Christopher Nolan lors de son discours. Petit bonjour à Alexandre Hellman.
Ouais. Petite bonne nouvelle aussi, c'est que la cérémonie a enregistré le meilleur taux d'audience, la meilleure audience depuis 2020.
D'accord, voilà. Intéressant.
Et dernière question, les films les plus primés de l'histoire des Césars, il y en a 2 qui sont ex aequo.
Il n'y a pas Des Hommes et des Dieux ?
Non.
Oh là là.
Cyrano, c'est vieux. Cyrano, en 91. Donc, c'est 10 récompenses.
Ah oui.
Et ouais, le deuxième film, c'est en 81.
81. Oh là.
Ouais. Un film de Truffaut.
Ah, bah, le dernier métro.
Le dernier métro.
Exactement.
Ouais, évidemment.
Eh bien, écoute, merci pour ces belles anecdotes sur les Césars. Ça nous donne envie de nous plonger déjà sur la suite. Et puis, on va revenir très rapidement pour reparler de la saison des récompenses, puisque les Oscars arrivent dans 2 semaines. Donc, on aura évidemment l'occasion de les débriefer. Avant ça, je le disais en introduction... C'est le Festival de Berlin 2024, la Berlinale qui vient de s'achever ce week-end. C'était la 74e édition, cette fois-ci présidée par la comédienne kenyo-mexicaine Lupita Nyong'o. Et les membres du jury ont dévoilé un palmarès plutôt très francophone, en effet, puisque c'est un documentaire qui remporte l'Ours d'Or. C'était également un documentaire français l'année dernière, puisque c'était Sur l'Adamant de Nicolas Philibert qui l'avait remporté l'année dernière. Cette année, c'est Dahomey de Mati Diop. Mati Diop qu'on connaît pour...
Atlantique, le Grand Prix.
Exactement.
En 2019 à Cannes.
Qui avait été présenté à Cannes. Donc là, on est sur un documentaire franco-sénégalais-béninois et qui sera sorti le 25 septembre prochain par les films du Losange, tout à fait. L'Ours d'Argent est également francophone. L'Ours d'Argent, c'est le prix du jury de Berlin. Et c'est un film qui est déjà dans nos salles. Il s'agit de L'Empire de Bruno Dumont, donc sorti par ARP. Voilà, c'est une belle récompense pour Bruno Dumont.
Alors, c'est le prix du jury.
Ouais.
Parce que tu as le grand prix du jury, oui, c'est Traveler's Need.
C'est
ça. Ah oui, c'est ça.
Grand prix, oui, c'est ça. C'est prix du jury. Il y a le grand prix du jury, c'est Traveler's Need, tout à fait, de Hong Sang-soo.
Avec Isabelle Huppert. Avec
Isabelle Huppert. C'est un cinéaste coréen qu'on ne présente évidemment plus. Je veux également mentionner des noms qu'on connaît au niveau des acteurs et actrices, à commencer par Sebastian Stan, connu pour avoir interprété le soldat de l'hiver dans les sagas Marvel, tout simplement, puisque lui remporte l'Ours d'Argent du meilleur premier rôle. Pour Different Men d'Aaron Schwimberg. Alors c'est un film, vous connaissez peut-être pas le titre, mais je pense que si je vous dis que c'est un film avec un vrai Elephant Man, ça va peut-être un peu plus vous parler.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc ça c'est Sebastian Stan qui l'emporte. Et puis du côté féminin, c'est l'actrice britannique Emily Watson qui remporte pour Small Things Like This de Tim Mieland. C'est un film irlandais, belge, américain. Voilà pour Berlin. Messieurs, on va repasser un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'on va attaquer tout de suite ce qui s'est passé du côté du box-office américain ce week-end, et puis également du box-office international, qui, je le crois, Julien, est toujours dominé par un film chinois, alors que le Nouvel An chinois est pourtant terminé. Explique-nous cela.
Alors, il n'y a même pas de film US sur le podium, et donc 4 films chinois, dont 2 sur le podium, un film japonais, un film coréen, 4 films américains. Est-ce que c'est déjà arrivé, Arthur?
Non, en tout cas, c'est pas depuis Belle Lurette.
Ah, surtout hors Nouvel An chinois. Autant la semaine dernière, on pouvait l'expliquer parce qu'il y avait le Nouvel An chinois, enfin, il y a 2 semaines, mais là, comme c'est terminé, c'est d'autant plus... je ne sais pas si on peut dire inquiétant ou étrange.
Étrange, le manque de films américains, mais c'est vrai que tu as raison de le signaler. On est dans la continuité du Nouvel An chinois, donc on est sur des chiffres moins impressionnants, mais vous verrez le cumul des films chinois sur le Worldwide sont très très hauts, puisqu'on commence même avec Article 20 qui est en tête du Worldwide, qui a réalisé 40 millions de dollars de recettes.
Pour son troisième week-end.
Pour son troisième week-end, et au cumul, il est à combien, Arthur?
288 millions de dollars. Et le film, notons-le, n'est sorti que dans 4 territoires.
Ensuite, on a Pegasus 2. Alors lui, en deuxième position, il a 34 millions de dollars de recettes. Mais au cumul, il est à 433. Alors je suis allé voir le premier Pegasus, il avait fait 255 millions. Donc il est en train de faire un x2. Mmh. Ensuite, on retrouve, alors là, c'est la première sortie... qu'on retrouve sur le box-office US qui, cette semaine, lui, a eu du mal à performer puisqu'il est autour de 60 millions de dollars de recettes. C'est un petit peu comme dans le monde. C'est toujours ce... On attend d'une, on a envie de dire, pour que le marché remonte dans les territoires. Et donc, Demon Slayer, il est à 28 millions au niveau du Worldwide. Ça lui fait un cumul de 41 millions. Et sur le box-office US, Arthur ?
Sur le box-office US, il arrive en seconde position avec 11 millions de dollars au week-end. 11 500 000.
Et ça le positionne sur...
En troisième sur le Worldwide.
Oui, non, c'était pour dire par rapport aux autres Demon Slayer. Ils avaient fait, en 2021, il avait fait 22 millions et il avait terminé à 49 millions. On a Pokémon qui était en tête, lui, qui avait fait 31 millions et Dragon Ball qui avait fait 21 millions. Ensuite, on retrouve Bob Marley, lui, qui est premier au box-office US.
Premier au box-office US avec 13 500 000 dollars en domestique.
Et sur le Worldwide, ça nous amène à du 120 millions. Alors, 120 millions, où est-ce que ça le situe? Ouais, j'ai regardé un petit peu. Alors, on est très loin, évidemment, d'un Bohemian Rhapsody, lui, qui a terminé à 910 millions. Mais je crois, alors j'ai plus les chiffres devant moi, donc si c'est pas tout à fait exact, on fera une petite mise à jour. Mais Rocketman, il devait être autour des 200 millions, 180-200 millions. Voilà. Oui. Derrière, on retrouve un autre film chinois, donc en cinquième position, c'est YOLO. YOLO, 24 millions de dollars de recettes, 463 millions sur le Worldwide. Ensuite, on trouve un nouveau film chinois, Bonnie Bears. Lui, 21 millions cette semaine, 256 millions de dollars au Worldwide. Exuma, c'est un film coréen qui a ouvert ce week-end et lui qui a amassé 17 millions de dollars de recettes. Derrière, Madame Web, c'est, il en est à 77 millions Worldwide au cumul. Oui. Et sur le box-office US, il se comporte comment?
Alors, il ajoute 6 millions de dollars à son total de 35 millions de dollars au domestique. Et à noter qu'il est en quatrième position. En troisième position, on retrouve Ordinary Angels, une production Lionsgate qui cumule 6,5 millions de dollars. Donc, c'était son week-end de sortie. Et à noter que le film porté par Hilary Swank n'a pas de date de sortie en France.
Et après... On termine avec 2 films US, dont un qui est sorti il y a 12 semaines, il y a 9-10 semaines. C'est Migration, lui, il est à 268 millions. Donc, c'était la course avec Wish qui était à 250 millions. Donc, il est, avec le temps, passé devant. Et Wonka qui revient, et lui, il est à 617 millions de dollars de recettes.
En tout cas, seulement 4 films américains dans le top 10 worldwide, c'est quand même très rare, Julien.
Mais je ne sais pas si on l'a déjà vu, hein. je pense pas.
En tout cas, de
ou alors de peut-être, comme tu disais, de Nouvel An chinois, peut-être, mais...
De nos un an et demi d'Opening Weekend, ce n'est jamais arrivé, en tout cas.
Tout à fait.
Et bon, la tendance devrait être inversée a priori la semaine prochaine avec l'arrivée de Dune 2.
Dune devrait prendre la première place. Voilà. On va aller voir à combien il avait ouvert, mais en tout cas en France c'était 877 000. Ouais. Les trackings le voient un petit peu au-dessus, donc on peut s'attendre quand même à un événement.
Bah, un petit 4 millions. Allez, très bien.
Et ben, la transition est toute trouvée pour parler de ce qui se passe avant la sortie de Dune, à savoir le marché du week-end qui vient de s'écouler. C'est le moment d'attaquer le box-office français.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
De retour pour parler du week-end en France avec un marché, comment on pourrait qualifier, allez on va dire plutôt stable, mais trop faible hein, pour la période. Jérémy, il manque un peu quelque chose là sur le marché en ce moment.
Bah, il manque clairement la nouveauté, on va dire, soit le gros film français ou le gros film américain pendant les vacances de février, puisque là très clairement, ça y est. C'est la stat qui fait mal. On est en dessous de l'année 2022. Donc, pour rappel, 2023, c'était on va dire, la bonne année qui témoignait d'un vrai retour du marché. 2022, c'était l'année de transition. Donc, si 2024 commence à faire moins bien que l'année de transition, ça n'envoie pas forcément un très bon signal pour la suite, d'autant plus que on va dire tous les gros films sont datés sur l'année. On peut déjà, si on s'amuse à un peu tout regarder, faire un gros estimate de l'année 2024. À moins de plusieurs grosses surprises, et ça se confirme par ce week-end, on fera pas les chiffres de l'année dernière. Donc, après avoir fait une belle année, voilà, on est clairement à nouveau, malheureusement, dans une année de transition, Julien.
Bah, là, la difficulté, alors il n'y a rien de catastrophique, hein. On a dépassé la barre des 3 millions, mais c'est vrai que c'est en dessous des standards de saison. On situait depuis le début du mois de janvier, comme tu l'as dit, entre 2023 et 2022, et pour la première fois, 2022 est venu se positionner devant 2023. Alors, en soi, c'est pas grave puisque la semaine prochaine, la tendance devrait s'inverser. Mais c'est vrai qu'on prend du retard, qu'on était sur des périodes qui étaient plutôt stables et importantes en 2023, même si le mois de février avait été compliqué et que ça avait commencé surtout en mars et que ça avait fait de mars jusqu'en septembre. Et après, on sait que la fin avait été un peu plus compliquée, à part sur la période des vacances. Mais c'est vrai. Et c'est ce que tu disais, là pour l'instant, on est plus proche des 150 millions que des 180.
Bah, surtout que si tu regardes jusqu'à cet été, donc tu as un Kung Fu Panda numéro 4 qui arrive en mars, donc qui va être un gros film d'animation. Ensuite, tu as Fall Guy, La planète des singes, qui vont arriver en mai, et Furiosa. Mais là-dedans, est-ce qu'il y a un film déjà qui pourrait atteindre le score d'un Super Mario qui est sorti en avril de l'année dernière, qui a fait 7 millions d'entrées?
Et t'avais D'Artagnan, en plus.
Et t'avais D'Artagnan. Et là, clairement, c'est un peu plus éparse. Et puis, il y a moins de grosses propositions. Et en plus, elles sont un petit peu plus étalées dans le temps.
T'avais ça au mois d'avril. Et de retrouver le phénomène de l'été Barbenheimer, ça va être compliqué aussi.
Ah bah clairement,
c'est clairement pas tous les ans, ça.
Voilà, c'est pas tous les ans. Et tu peux dire que t'as un plan B parce que t'as 3 ou 4 gros films. Alors évidemment, il y a un Moi Moche 4. Évidemment, il y a un Vice Versa, il y a un Deadpool. Mais quand même, est-ce que ces films-là vont surperformer ou alors est-ce qu'ils vont être des déceptions par rapport aux épisodes précédents? Ça va être la grande, grande question de cet été.
En tout cas, qui dit marché à plus de 3 millions d'entrées avec finalement assez peu de propositions fortes, dit aussi peut-être certains films un peu en surchauffe, hein, des films qui vont au-delà de leur potentiel. Et c'est notamment le cas de Bob Marley, One Love, qui réalise déjà au bout de ses 10 premiers jours 1 134 000 entrées. Le film est au-dessus de ce qu'on l'avait, des tracking, des différentes estimations qu'on avait dessus, Julien.
Ah, mais je pense que même au niveau worldwide, de toute façon, Bob Marley, personne ne l'avait situé à ce niveau-là. Donc, alors, très bien pour le film. Est-ce que c'est un manque d'offres et on se repositionne? Mais ça veut dire de toute façon que les gens, quand même, ont besoin du cinéma et continuent d'aller au cinéma.
Il faudrait plein de Bob Marley sur les semaines creuses, de bonnes surprises comme ça.
Et donc, ça le situe quand même sur le marché français à plus 114% par rapport à Elvis. Au bout de 10 jours, il est à 533 000 pour dire le score. Alors, bien sûr, si on prend...
Mais c'est fou, ça, quand même. Hein.
C'est, et que c'était déjà un très beau score, Elvis. Mais Elvis a tenu sur la durée, puisqu'il termine à 1,2 million. Mmh. Et là, allez... Non, il peut quand même aller chercher...
Les 1,8.
Un 7, un 8, ouais, ouais, je pense. Ouais.
Et puis là, le film perd quand même 40% de ses entrées en deuxième semaine, malgré le fait que toutes les zones soient en vacances. C'est aussi lié à des retours spectateurs qui sont bons, mais pas
ils sont bons, ils sont corrects.
Pas aussi bons que sur Elvis, notamment, ou sur Rocketman ou Bohemian Rhapsody, si on va un peu plus loin. Voilà, c'est aussi que c'est la preuve que le film... profite aussi d'une concurrence relativement faible.
Et aussi le coefficient. On a un coefficient de 5,5, donc difficulté vraiment à aller dans les plus petites villes, les plus petites...
Bon, c'est pas mal comme 5,5. C'est plutôt un bon chiffre. Ah, tu voyais encore plus haut.
Bah, je me disais...
Tu disais Bob qui amène l'amour et la paix.
Bah, moi, j'aurais plus attendu quelque chose autour de 7 ou de 8 pour que ça devienne vraiment un phénomène populaire. Et c'est pour moi ce qui explique aussi le fait qu'il perde 40% en deuxième semaine. Analyse très personnelle.
En tout cas, un autre film qu'on n'attendait pas forcément aussi au démarrage, en deuxième position, c'est Une vie, le film avec Anthony Hopkins, sorti par SND. On a eu l'occasion d'en parler rapidement il y a deux semaines désormais avec Joël Pourgaton quand il est venu nous parler du démarrage de Cocorico. Mais là, je pense que Joël doit être très heureux ce soir quand il découvre les chiffres de Une vie, puisque le film réalise 358 000 entrées à l'issue de ses 50 premiers jours. Jérémy, on ne l'attendait pas, celui-là.
Ah ben, clairement, je pense que si on nous disait avant « Une vie termine à 800 000 entrées fin de vie », on aurait tous signé en disant « c'est déjà une belle performance ». Mais il s'est passé quelque chose, effectivement, bah, peut-être aidé, bien évidemment, par le succès de la zone d'intérêt. L'affection très forte du public français pour Anthony Hopkins, on l'avait vu encore avec le film de Florian Zeller, « Le Père ».«
The Father ».«
The Father », exactement. Là, ouvrir à 358 000 entrées alors qu'il n'a que 13 000 d'avant-première, c'est tout simplement, Julien, un score, on peut le dire, à son échelle, phénoménal.
Ah, c'est phénoménal. Je pense que c'est le perfect match avec son public. Je pense pas qu'il...
Avec l'accent, bien joué.
L'accent je pense anglais. Pas qu'il puisse vraiment aller chercher plus haut au démarrage, tellement c'est déjà impressionnant. Juste, si je vous prends 2-3 comps, parce que de toute façon, j'ai pas de comps là-dessus.
Mais tu vas pas prendre la liste de Schindler ou
ça a battu la liste de Schindler. Schindler a démarré beaucoup moins fort. Alors, il a terminé à plus de 2 millions, mais il a démarré moins fort. Et alors, comme Christopher Nolan, on a oublié de le rappeler, Spielberg avait gagné un César d'honneur, mais n'avait pas gagné le César du meilleur film étranger.
Intéressant.
Pour Schindler.
Ouais.
Et il était venu la même année au César.
Exactement.
Intéressant.
Donc pour revenir juste sur les comparables, tiens, en parlant de Spielberg, parfait, mais j'ai pris Fablemans, il avait démarré à 300 000, L'Abbé Pierre, 300 000, Zone of Interest, c'était 200 000 entrées, Anatomie d'une chute, 250 000. Alors, je ne sais pas, moi, là, pour donner une fin de vie... Ça me semble très compliqué.
Bon, on peut dire un 5, non ? Facile.
Bah, je pense qu'il est complètement là-dedans. En tout cas, pour moi, le million d'entrées, il est facile.
Surtout quand tu regardes les retours spectateurs, j'ai l'impression que c'est un peu comme dans un autre film. Est-ce que c'est la recette SND comme la 13 ? C'est-à-dire des retours spectateurs où on a vécu un moment incroyable, on a pleuré comme jamais. Bon, ce qu'on présentait quand même quand on avait vu les premiers extraits au congrès des exploitants il y a plus d'un an, c'est que c'était le film qui allait faire pleurer dans les chaumières, comme on dit.
Oui, bon, c'est vrai qu'on le sentait arriver, on sentait qu'il avait de la force, on sait qu'Anthony Hopkins, c'est une valeur sûre, mais on le voyait pas à ce point-là.
Et puis du coup, en plus, avec une sortie sous les 500 écrans, à 469, ça amène le film à une moyenne par écran de 735, ce qui est du coup, de facto, la meilleure moyenne du top 20. En troisième position, voilà, encore une fois, c'est un autre film
SND aussi.
Un autre film SND qui lui aussi réalise une excellente carrière et qui en plus, sur son troisième week-end, perd que 9% des entrées. Je parle évidemment de Cocorico, le film des Avengers français de la comédie, à savoir Christian Clavier et Didier Bourdon. 1 245 000 entrées à l'issue de son troisième week-end. C'est encore très solide.
Et il prend la tête du box-office 2024. Où il était déjà même en tête, mais en tout cas, il reste en tête.
Ouais. Il reste en tête,
ouais, peut-être encore pour une petite semaine. Bob Marley va le rattraper. Enfin, pardon, non.
Une à deux semaines, mais en tout cas, il est là.
A priori, Bob Marley le rattrape là dans les jours à venir, et puis ensuite, ça sera vraisemblablement du Noël, en effet. Une autre comédie en quatrième position, Maison de retraite, deuxième partie, ça c'est chez Apollo, moins 12%, pareil, ça reste assez, une baisse assez contenue, forcément, voilà, on est en pleine vacances scolaires, donc les baisses c'est logique, mais c'est quand même une performance notable, 793 000 entrées, on est sur les pas du premier épisode, Julien, il me semble, à peu près.
On est à moins 20% par rapport au premier épisode, donc pas sur les pas, puisque le premier avait quand même terminé à 2 millions. Là, l'objectif, c'est déjà d'aller passer, d'aller chercher du 1-2, 1-3. On va voir où est-ce qu'il peut terminer.
Ce qui serait un beau score, mais il faut le remettre en perspective par rapport à son budget, parce que qui dit numéro 2, en général, dit augmentation du budget. Mmh. Et je crois que Julien, là, on est sur quasiment du simple au double.
Ça, 12 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'on attend une performance à la hauteur du budget.
Ouais, un film aussi qui a coûté très cher, je crois, c'est Chien et Chat. Ouais.
Chez 19 Gaumont, millions.
19 millions d'euros de budget, c'est assez énorme. Quoi qu'il en soit, le film se maintient bien sur sa deuxième semaine grâce au fait que les trois zones sont en vacances scolaires. 534 000 entrées à l'issue de son deuxième week-end, au cumul en tout cas, plus 8%. Le film prend la route du million d'entrées.
On l'espère. C'est vrai qu'il a eu une belle tenue. Plus 4%, je crois, si je ne me trompe pas.
Plus 8%.
Plus 8%. Donc il est. Non, il se maintient bien. Paddington, après 10 jours, lui, il était à 940 000. On avait quoi? Si, même sortie, même date de sortie, The Call of the Wild.
Avec L'appel de la forêt.
L'appel de la forêt. Merci. Donc même date de sortie, il était à 891 000. Il avait terminé à 1,3 million. Donc on va voir, là, il a une troisième semaine qui est ultra importante. Il faut vraiment qu'il arrive à se maintenir pour être sûr de passer le million. Voilà, pour l'instant, je t'avoue que je le verrai à 900 000 entrées, mais le million est tout à fait possible.
Avec encore deux œufs en vacances cette semaine, on verra à quel point ça le pénalise ou pas. Un autre film est dans le même wagon, c'est Le Dernier Jaguar, qui lui s'en sort encore mieux en termes de tenue, plus 38% pour le film de Gilles Demestre distribué par Studio Canal, et on est désormais à un cumul un petit peu supérieur à celui de Chien et Chat. Il est à 569 000 entrées au total. C'est plutôt des standards hein, pour Gilles Demestre.
Complètement. Alors, on ne va pas comparer avec Mia et le Loup qui lui était sorti directement en pleine vacances de Noël, mais plutôt Le Loup et le Lion. Si je me trompe sur les titres, vous m'en voudrez pas. Mais qui, lui, au bout de trois week-ends, on était à 622 000, donc 622 569. Donc toujours aussi en route pour le million. Et c'est vrai que c'est impressionnant, ces films, parce qu'ils ont leur date de sortie. Les démarrages correspondent, sont assez similaires. Et puis ça tient.
On a l'impression que c'est des films qui se font tout seuls, quoi, qui roulent tout seuls. C'est une évidence, on les sort, ça fonctionne, ça serait magnifique si c'était le cas pour tous les films, mais
il n'y aurait pas la place pour tous les films.
Il n'y aurait pas de place pour tous les films, exactement.
Et puis on est sur des périodes spécifiques qui s'adressent à un public famille, et en même temps, c'est là aussi où on peut se poser la question, parce que on est en vacances. Une vie, c'est quand même un public très senior. Il réalise un score démentiel. Est-ce qu'il aurait réalisé le même score à cette période, ou si on l'avait déplacé sur une période hors vacances? Alors, moi, j'ai envie de te dire, je pense que même en hors vacances, il aurait réalisé des chiffres aussi impressionnants. Hein. Mais voilà, c'est des questions auxquelles le distributeur réfléchit. Comment il doit le sortir? Est-ce que justement, c'est fait que pour les jeunes, les périodes de vacances, pour aller au cinéma? Donc, c'est toujours intéressant à analyser, en tout cas.
En septième position, c'est une sortie événementielle chez Sony. Il s'agit de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Donc le film était présenté sous une configuration spéciale, puisqu'il n'y avait toutes les séances étaient regroupées sur samedi et dimanche. Malgré cet handicap voulu, le film réalise en seulement deux jours 149 000 entrées, donc c'est plutôt une belle opération pour Sony. On ne peut pas forcément dire autant de Madame Web en 8e position, également chez Sony Pictures, qui lui, film de la saga Marvel et de l'univers Spider-Man, qui lui réalise 312 000 entrées à l'issue de son deuxième week-end, moins 39%, c'est une baisse considérable. Bon, ça continue à être compliqué pour les...
Là, il est en dessous de Blue Beetle, il est en dessous de The Marvels. On va peut-être Voilà, on va peut-être enfin.
On arrête.
Non, mais j'ai l'impression que chaque film de super-héros, hors.
Le personnage secondaire. Oui.
Mais hors, je ne sais pas d'ailleurs. J'ai l'impression que ça fait plusieurs films, on se dit, ça commence à être vraiment faible pour un film de super-héros.
À part les historiques, quoi.
Oui, finalement. Mais ce qui est important, alors après, sans remettre en cause, mais c'est vrai qu'on le sent et ça se sent que la qualité, elle est quand même moins au rendez-vous que sur les personnages principaux. Donc,
C'est censé être quand même les nouvelles pierres de la énième phase du Marvel Cinematic Universe. Donc, si les nouveaux personnages n'arrivent pas à percer, enfin, si on prend un tout petit peu de recul, souvenons-nous que quand Doctor Strange arrive, personne ne le connaît. Hein.
Après, c'est avant. Les personnages principaux, c'était autour d'un million. Peut-être que maintenant, les personnages, les nouveaux, c'est la norme, ça va être 500 000 entrées.
Bon, faut dire que le film n'a pas forcément été aidé par une promotion un peu balbutiante par moment. Par la presse. Et par des retours presse et ensuite spectateurs qui ont été plus que compliqués. Une pensée tout de même pour Taha Rahim, hein, notre acteur français mentionné tout à l'heure, qui joue le méchant du film. Je ne sais pas s'il a parié sur le bon Marvel, mais je pense qu'il a quand même bien fait de le faire.
Bah, en tout cas, il y en a, ils n'ont pas parié sur les bons chevaux, et j'ai envie de dire sur les bonnes brebis. C'est pâté avec les chèvres.
Hein. Ouais, avec la chèvre en 9e position.
Les chèvres.
Puisqu'on parlait des comédies qui fonctionnaient, malheureusement, il y en a pour qui c'est plus compliqué. C'est le cas du nouveau film de Fred Cavaillé avec Jérôme Commander. Jérôme Commander qui cartonne en plus pour l'instant, en ce moment, dans la série, dans le jeu LOL, puisque c'est un peu la star de cette quatrième saison de LOL, mais il ne transforme pas l'essai au cinéma.
Comme Danny Boone, hein. Normalement, Danny Boone, il y a quand même un minimum de gens qui viennent le voir. Et là, on se dit, bon, bah, c'est la contre-proposition aux Avengers de la comédie de Cocorico. Ah ben là, clairement, c'est le coq ne chantera pas très très longtemps.
Là, ils ont fait le triplé. Hein. Plus mauvais démarrage pour Fred Cavaillé, plus mauvais démarrage pour Danny Boone, plus mauvais démarrage pour Jérôme Commander.
Mais moins de 100 000 entrées.
Alors, on n'a pas donné le chiffre exactement. 85 000 entrées pour le film distribué par Pathé, avec un budget, je crois, Julien, qui est quand même assez conséquent. Hein.
On tourne autour de 19 millions d'euros.
Oui. C'est compliqué. Compliqué.
Et il faut redire quand même, Fred Cavaillé, c'est notamment le jeu. Donc, c'était pas son premier coup d'essai en comédie. Hein.
Oui, Fred Cavaillé qui vient en effet plutôt du cinéma d'action.
Au départ, ouais.
Fred Cavaillé a été un des artisans de la découverte de Gilles Lelouch au cinéma, on le rappelle, et qui s'est tourné depuis quelques années vers la comédie, avec succès, tu l'as dit, comme pour le jeu. Mais là, cette fois-ci, c'est pas au rendez-vous.
On peut parler d'accident industriel à ce niveau-là, quand même.
Ah, bah, c'est le premier de l'année.
Ouais, il en fallait un.
Hein. Il en faut toujours, hein, ça. Voilà. Ça fait partie du jeu.
Mmh. Oh, magnifique.
Je te la laisse, celle-là. Un succès à réessayer, à noter en 10e position. Il s'agit du film Canoë à la zone d'intérêt qui passe les 608 666 entrées, moins 27% seulement. Le film profite étonnamment très bien des vacances scolaires. Jonathan Glazer au top.
Ouais. Bon, rien à ajouter. Enfin, il a quand même dépassé depuis longtemps Pauvre Créature. Hein.
Ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, on l'a assez dit aussi. Lui, c'est vraiment après. En tout cas, il va y avoir une vie qui va terminer devant. Et le deuxième impact sur le cinéma indépendant, Zone d'intérêt, Pauvre Créature. Donc, ça a quand même fourmi de bons résultats dans le cinéma indépendant.
Ouais, bah, ce qui est une bonne nouvelle, parce que l'année dernière, il y avait quand même beaucoup de déceptions dans le cinéma indépendant. Et on sait à quel point, aux États-Unis notamment, c'est un marché qui a de plus en plus de mal avec les propositions art et essai. Donc, le salut viendra-t-il de l'Europe et de la France une fois de plus? On l'espère.
Ouais, une bonne santé pour les films d'art et essai porteurs, comme on dit, les films d'art et essai grand public. Même si on peut pas dire qu'au départ, La Zone d'intérêt était un film grand public.
Il a complètement explosé sa cible principale. Et voilà, là, il est devenu porteur, alors que clairement.
C'est très radical comme film. À la portée de tout le monde. Donc,
et puis Jonathan Glazer, il n'avait jamais fait des scores extraordinaires avant.
En tout cas, ça nous permet de saluer nos amis de Backfilm qui ont remporté en plus deux Césars ce week-end avec Chien de la Casse, et voilà, qui en plus réalise des succès en salle avec La Zone d'intérêt. Un autre succès à réessayer énormissime, évidemment, on ne parle que de lui cette semaine, c'est Anatomie d'une chute, qui, on va le préciser, en 27e semaine, qui fait un plus 79%, largement aidé évidemment par sa consécration ce vendredi soir à l'Olympia. 1 659 000 entrées pour le film distribué par le Pacte.
Alors, est-ce qu'il s'arrête à 2 millions ou alors est-ce qu'il s'arrête à 1,8?
Et alors, Jérémy, s'il passe les 2 millions et s'il passe les 2,2 millions pour le Pacte, qu'est-ce que ça voudrait dire?
Alors, bah, ça veut tout simplement dire, bah, moi, j'y crois quand même pas à 2002. Mais il faut savoir que déjà, c'est le deuxième plus gros succès du pacte. Donc, depuis la création de la société en 2008 ou 2007, si je ne dis pas de bêtises, il a déjà dépassé Drive. Et s'il dépasse les 2002, il dépassera Les Misérables. Bon, ça me paraît quand même un peu compliqué, à moins qu'il y ait un Oscar quelque part et que le pacte décide encore plus de le mettre en avant, ou j'en sais rien, que Emmanuel Macron fasse son mea culpa devant la France entière. J'ai un peu du mal à voir comment il pourrait dépasser Les Misérables. Mais il faut quand même le dire, ce qui se passe sur ce film, on l'a dit, on le répète, et Justine Triet a encore gagné d'autres prix ce week-end après les Césars, c'est tout simplement exceptionnel. J'ai l'impression qu'on revit ce qui s'est passé avec Parasite. Donc...
Ouais, ça serait bien de regarder Parasite, mais alors Misérable, ça me semble compliqué d'aller chercher Les Misérables quand même. Hein.
Non, mais ça veut dire que là, il y a
même les 2 millions, mais après.
Ah ouais, moi, pour moi, un 8, c'est.
Oui, c'est son chiffre, ouais, c'est ça, exactement.
Le pacte positionne également un film dans un tout autre genre en 12e position. Il s'agit d'un film animation chaîne publique, Le Royaume de Kensuke.
Très beau score.
Lui passe la barre des 200 000 entrées en 15 jours. C'est un très joli score.
Il y a beaucoup de duos de distributeurs cette semaine. Hein.
Ouais.
Deux fois SND, deux fois Sony, deux fois le pacte, deux fois KNBO.
Avec des fortunes diverses, hein, tout de même.
Ouais.
Et on va également noter Dali, qui lui sur son troisième week-end fait un plus, perd 33%, pardon, et tutoie bientôt la barre des 400 000 entrées. Alors ma question, elle est plutôt simple sur Dali. Est-ce que est-ce qu'il va devenir le film numéro 1 de Quentin Dupieux, ou est-ce qu'il va se cracher face au phénomène Yannick qui lui avait dépassé 400 000 entrées?
Pour moi, il va y arriver, mais ça va jouer vraiment à la photo finish, comme on dit.
Ah, ça va être sur la ligne. Moi, je pense que Yannick va rester devant. Et c'est 463 000 entrées.
Les paris sont prêts, les auditeurs t'ont entendu. Julien.
Ouais, ouais, ouais. Et on va voir si Dali ça ferait deux films à la suite. Ça veut dire qu'il battrait son propre record à chaque nouvelle sortie de film.
Ouais.
Ça serait impressionnant.
Et peut-être que dans 10 ans, on dirait « Eh oui, Quentin Dupieux qui, pour son 37e film, dépasse enfin le million d'entrées. »
Est-ce qu'on a des infos sur le prochain déjà?
Bon, non, mais il a sûrement deux films en préparation.
Il y en a déjà deux qui sont finis.
C'est notre Hong Sang-soo à nous.
C'est ça. Un autre fait notable et un autre film qui surperforme, on peut le dire, c'est Tout sauf toi, qui lui dépasse la barre des 500 000 entrées en cinquième semaine. C'est devenu extrêmement rare pour une comédie romantique qui plus américaine. Donc voilà, 510 000 entrées pour le phénomène TikTok Tout sauf toi, dont on a déjà largement évoqué le...
Ah, mais est-ce que ça va relancer, la vraie question, c'est est-ce que ça va relancer les comédies romantiques qui sont... entre guillemets, un peu à l'abandon.
Alors, il faut quand même savoir que des comédies romantiques américaines, il y en a plein, mais toutes n'arrivent pas chez nous.
Je parle à l'international,
Mais on connaît, on voit à quel point, depuis le Covid, les stratégies sont sans cesse changeantes. Et il y a toujours, évidemment, cet appât du gain. Les studios, on le voit, ils travaillent énormément dans l'agilité. On peut très bien voir, à partir des mois prochains, des comédies romantiques qui se font avec un cast assez jeune, assez frais, qui se montrent rapidement et qui débarquent comme ça sur le marché. On va peut-être revivre un âge d'or de la comédie américaine. Ouais. Mais là, le grand défi, ça va être vraiment de fidéliser ces jeunes spectateurs.
Est-ce que c'est un one-shot ou non? Parce que c'est vrai que 500 000 entrées, c'est un beau score pour une comédie. Il y en a normalement, il fallait remonter en arrière pour retrouver score équivalent, sans parler de quelques phénomènes. Mais alors voilà, est-ce que c'est un phénomène ou est-ce que ça va relancer un petit peu un genre? Tout est ouvert.
Affaire à suivre, ça sera l'un des fils rouges des mois à venir. Pour parler des autres démarrages, évoquons Le Royaume des Abysses, qui lui réalise 60 000 entrées, c'est chez KMBO sur ses 5 premiers jours. L'Empire, c'est le nouveau film de Bruno Dumont avec son casting 5 étoiles chez RP, réalise 38 500 entrées. On a également Sleep chez The Jokers. C'est The Jokers film, 38 200 entrées.
Grand Prix de Gérard Armé.
Merci de me le rappeler. Le successeur, le film d'après pour Xavier Legrand, le film d'après, ouais. Jusqu'à la garde, il sort chez Haut et Court, 25 000 entrées. Bon, c'est pas le même succès qui se profile. Bye Bye Tibériade chez JHR Film, 16 000 entrées. Au fil des saisons, là on est chez UGC, 14 600 entrées. Universal Theory chez UFO, 7 140 entrées. Et enfin, Le Nom de la Rose, c'est en reprise. Lui, c'est chez les Acacias, 11 378 entrées. Jérémy, tu veux signaler quelque chose?
Je voulais quand même dire, il y avait d'autres démarrages, des plus petits, mais il faut quand même les citer. Woke Up, un Aung San Suu, et oui, ça manquait d'Aung San Suu, il y en a un qui est sorti cette semaine par Capricci. Les Derniers Hommes, pardon, distribué par Tandem, qui fait 4141 entrées. Double Foyer de Nour Film, qui fait 3015 entrées. La reprise d'une histoire vraie de David Lynch par Carlotta, 1287 entrées. Une autre reprise, Bellissima, par les films du Camélia, qui est à 3414 entrées. Drôle de chiffre, parce que ça ne suit pas le top, mais bon, enfin, c'est chiffre communiqué. Et enfin, deux petits démarrages, Il fait nuit en Amérique, je crois qu'il est un documentaire sorti par The Dark Distribution. Et enfin, Le pion du général de chez Destiny, 670 entrées. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de jaloux.
Merci Jérémy de signaler ces films-là qu'il ne faut évidemment pas oublier et soutenir. Arthur, on le sait, tu passes tes semaines sur Twitter.
Toutes ces secondes de sa vie.
Et tu vois des bandes-annonces, tu vois des trailers, il y en a certains qui t'interpellent, qui t'agacent et d'autres que tu veux mettre en lumière. Qu'est-ce que tu veux mettre en lumière cette semaine?
Alors, il y en a une en particulier qui est sortie cette semaine d'un film plus ou moins attendu qui sortira cette année. Il s'agit de l'adaptation de la franchise de jeux vidéo assez connue Borderlands, donc produite par Lionsgate, et que SND sortira le 7 août prochain. Le film est réalisé par Eli Roth, qui s'était plutôt démarqué dernièrement dans le cinéma d'horreur, avec notamment Thanksgiving, qui était sorti en fin d'année dernière, sorti par Sony.
Qui sera toujours attaché à son rôle de l'ours juif dans Inglourious Basterds.
Absolument, ouais. Le film, on a un casting plutôt alléchant entre Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, mais également Jack Black, qu'on retrouvera au casting vocal de ce film et qu'on retrouvait aussi dans l'adaptation d'une franchise très connue l'année dernière avec Super Mario.
Borderlands, le 7 août au cinéma. Est-ce que tu voulais nous parler d'un autre trailer?
Non, c'est bon pour moi, on peut parler du sondage.
Eh ben écoute, ouais, parce que avant ça, il y a des films qui sortent dès mercredi, dont un certain nombre. Le sondage Twitter, on peut en inclure que 4. C'est ma fille qui l'a lancé, bis à ma fille. Qu'est-ce que nous avons en concurrence cette semaine?
Alors, cette semaine, entre Dune 2, Madame de Sévigné, Black Tea, Tombée du camion, il n'y a aucune surprise. C'est le film qui écrase, entre guillemets, un peu les autres, en tout cas sur notre sondage, c'est le film de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, dont vous pouvez, pour rappel, retrouver l'interview sur Débris Film. En deuxième position, on a une parfaite égalité, c'est fait assez rare, entre Madame de Sévigné et Black Tea, le film distribué par Gaumont. Et on finit ce classement par Tombée du camion.
Ouais, sans surprise, évidemment, Dune est le grand leader de la semaine, le film le plus attendu depuis des mois maintenant, depuis les vacances de Noël. Voilà, il arrive évidemment très fort, mais comme tu l'as dit, ça sera pas la seule nouveauté de la semaine. Il y en a 12 au total. On le rappelle, semaine avec encore deux zones en vacances scolaires, à savoir la zone A et la zone B. Donc on le disait, en plus de Dune, en plus de Tombée du camion, en plus de Madame Sévigné et en plus de Black Tea, le retour d'Abderrahmane Sissako 10 ans après Timbuktu, c'est le grand retour pour le cinéaste mauritanien, c'est important de le signaler. On a également Il n'y a pas d'ombre dans le désert. C'est un drame sorti par les films du Losange. Revivre, c'est un documentaire chez Pyramide. Eureka de Lisandro Alonso, drame français au Pacte. Débâcle, qui est un drame de l'actrice réalisatrice allemande Verle Battens chez Jour de fête. Un documentaire chez Arizona, La mère de tous les mensonges. Un drame Satoshi, c'est un drame japonais chez Waina Pinch. Le Titien, l'empire des couleurs chez Dean Media, un documentaire sur le peintre Le Titien. La 25e heure arrive avec le thriller Rien ni personne. Et enfin, en hors-film, je voulais signaler également en hors-film chez CGR Event, Moziman, Outside the Box à l'Olympia, donc la retransmission du concert du DJ Moziman à l'Olympia. C'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite évidemment à redécouvrir ou à découvrir l'interview exceptionnelle que nous avons fait avec Denis Villeneuve pour la sortie de Dune 2. Ça vous mettra dans l'ambiance du film. Voilà. Et le podcast de la semaine dernière avec Olivier Snanouch, vice-président de Warner Discovery France. Jérémy ?
J'ai envie de dire, ça va vous mettre le sable à la bouche.
Exactement.
Désolé, ça faisait depuis 10 secondes que je la préparais. J'avais envie de
évidemment,
de la dire.
La semaine prochaine, nous parlerons très en détail des résultats, des premiers résultats de Dune 2, mais nous avons aussi, comme chaque semaine, une grande surprise pour vous.
Une très très belle surprise.
Une très très belle surprise.
Un autre phénomène.
Et ce sera le retour d'Aurélien au micro. Je vous remercie, merci aux chroniqueurs, et moi je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.
Salut.
Ciao toutes.